Vous êtes avec SBS French.
Bonjour et bienvenue dans Europa Voice avec Nathanaël Bloch une nouvelle fois. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Allez, on va parler de sujets. Ben, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vraiment couvert cet angle de l'Europe. Mais en Roumanie, on a eu une réélection. Alors, c'est pas une réélection de quelqu'un, mais c'est une deuxième élection puisqu'il y a eu quelques problèmes sur la première. On va parler de tout ça. Mais on a l'extrême droite était favorite. Extrême droite aurait pu passer au pouvoir. Ça n'a pas été le cas. Il y a encore eu une coalition contre. Enfin, expliquez-nous un petit peu tout ça, ce qui s'est passé en Roumanie, parce que ça a joué sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois même presque.
Oui, effectivement, Christophe. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe à l'est de l'Europe une espèce de mouvement de balancier. C'est-à-dire, pendant qu'on voit des partis plutôt à droite et à l'extrême droite pointer le bout de leur nez dans l'Europe et l'Union européenne historique, hein, des fondateurs de l'Europe avec des menaces à chaque fois au second tour. La France en est un parfait exemple, avec trois fois le Rassemblement national au second tour de l'élection présidentielle. Les signaux, j'allais dire, les plus pro-européens arrivent à l'est de l'Europe. Et là, c'est ce qu'on a eu parce qu'on a eu le maire pro-européen de Bucarest, Nicuzor Dan, qui a remporté le second tour de l'élection présidentielle. Et ce qui est intéressant, c'est pas qu'il l'ait remporté, c'est qu'il l'ait remporté face à un candidat nationaliste. Et donc, on aurait pu penser qu'effectivement, ce pays européen basculerait du côté d'un nationalisme, d'une droite très dure, exacerbée, le modèle Orban, etc. Et en fait, pas du tout. Encore une fois, à l'Europe, à l'est de l'Europe, ce mouvement, ce contrebalancier et ce projet en fait, européen qui attire autant, si ce n'est plus, ces pays de l'est de l'Europe.
Il faut noter quand même que ce balancier, vous dites, il a quand même viré à droite sur une première élection. C'est ce qui s'était passé et cette élection avait été invalidée. Enfin, il y a eu tout un imbroglio législatif là-dessus puisque on avait parlé d'ingérence de plusieurs autres États, de plusieurs autres organismes. Enfin, le résultat de cette élection n'avait plu à personne et les Roumains ont dû retourner aux urnes. Et c'est vrai que, alors pas avec le même candidat de l'extrême droite, avec un autre candidat. Mais un candidat tout aussi fort, en tout cas dans les sondages.
Oui, et puis d'ailleurs, ce qui s'était passé, c'est que le candidat de droite dure, fervent admirateur de Donald Trump, était d'ailleurs arrivé en tête du premier tour de cette élection présidentielle. Donc il était favori. Et le fait qu'il y ait cette inversion au second tour, c'est ce qui a aussi entraîné beaucoup d'accusations d'ingérence. Alors c'est allé loin parce que même le fondateur, Christophe, de Telegram, Pavel Durov, a accusé notamment la France d'avoir cherché à censurer des voix qu'il qualifie de conservatrices en Roumanie, ce qui a été tout de suite démenti par le Quai d'Orsay. Mais effectivement, encore une fois, à l'ère des réseaux sociaux, des campagnes d'ingérence, du complotisme ambiant, on a failli avoir un score et un résultat qui n'est pas celui qu'on observe aujourd'hui. Mais le candidat de droite dure, de droite nationaliste, a concédé officiellement maintenant sa défaite. Et c'est donc un candidat pro-européen qui prend la tête de la Roumanie.
Est-ce qu'on souffle un air de soulagement au niveau des instances européennes, vous pensez ?
Bah, je pense que surtout...
Même si tout est démocratique, hein, mais on parle simplement justement de mouvement à droite et surtout pas tellement au centre, hein, c'est à droite et à gauche.
Oui, en fait, déjà, effectivement, au niveau de l'Union européenne, on souffle hein, d'avoir des candidats à la tête et maintenant des présidents ou des premiers ministres qui sont plutôt pro-européens. Et d'ailleurs, le candidat a été félicité par von der Leyen. Mais on souffle aussi, d'une certaine façon, parce qu'on est capable de résister justement à ces politiques et à ces campagnes de déstabilisation au niveau des élections nationales. Parce que là, on a ce cas en Roumanie, mais il ne faut pas oublier que sur les élections françaises plane encore un peu le doute, et notamment via le Rassemblement national, d'une ingérence russe. Et donc, c'est presque une élection dans l'élection à chaque fois maintenant qu'on va devoir traiter. C'est comment est-ce qu'on fait quand des scrutins sont nationaux, que les enjeux sont nationaux, pour ne pas justement être à la solde de campagnes d'influence de puissances étrangères qui ont des agendas qui sont complètement différents. Parce que au-delà de ces accusations d'ingérence, Christophe, ce qui plane encore une fois évidemment, c'est le soutien à l'Europe versus un parti plutôt pro-russe ou en tout cas une droite nationale qui s'alignerait plus facilement sur des politiques anti-européennes. Ça ne veut pas dire qu'elles seront forcément tout le temps pro-russes, mais en tout cas sur des politiques anti-européennes. Et donc, on va maintenant avoir de plus en plus ces espèces d'élections dans l'élection, en tout cas ces campagnes dans les campagnes, pour faire face à ces campagnes d'ingérence et au fait que des puissances étrangères veuillent, de manière nuisible, nocive, influencer sur le résultat, encore une fois, d'élections purement nationales.
Alors vous disiez, Georges Simenon, le perdant de cette élection, a concédé la victoire. Pourtant, il y a quelques jours, il y a deux jours, il demandait l'annulation pure et simple de l'élection, avec justement, vous le mentionnez, il accusait frontalement la France d'ingérence également. Qu'est-ce qui a changé dans son attitude? Pourquoi il concède maintenant l'élection? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a eu des déclarations? Qu'est-ce qui a changé justement en deux jours?
Alors déjà au début, il accepte le résultat, puis après seulement il fait volte-face. Les accusations, elles ne concernent pas seulement la France, il accuse aussi le voisin moldave, par exemple. Donc ça va un peu dans tous les sens. Il fait un recours officiel devant les instances de son pays. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'il n'y a pas eu d'incident véritablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu en Roumanie vraiment des violences qui peuvent exister, qui pourraient justifier ce recours du candidat. Donc je pense qu'une des choses qui fait qu'il finit par réaccepter, c'est qu'il a le droit de contester le résultat d'une élection.
Oui, c'est tout à fait,
légitime. Mais qu'en fait, il a été aussi très peu suivi par la rue. On a vu très peu d'images chez nos confrères français, européens ou même australiens de manifestations, etc. en Roumanie. Donc en fait, d'une certaine façon, il y avait un peu une espèce de geste désespéré ou d'étape par laquelle il faut passer de contester le résultat. Et je pense qu'aussi, encore une fois, c'est dû au fait qu'il était en tête après le premier tour. Il se voyait déjà à la tête de la Roumanie. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, Christophe, il a très vite refait volte-face et réatterri sur la première position qui était celle de concéder sa défaite et donc de ne pas accéder à la présidence roumaine.
Si on extrapole un peu sur le sujet, est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, avec des grandes guillemets, que aussi le résultat de cette élection, c'est un peu la fin de l'état de grâce de Donald Trump dans cette partie de l'Europe? Donald Trump, après son élection, il était encensé, surtout dans cette partie de l'Europe, par beaucoup de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur justement une fin d'état de grâce pour Donald Trump dans cette partie du monde?
Alors effectivement, le candidat de droite nationale roumain ayant comme modèle, et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il déclare dans la presse, Donald Trump, c'est effectivement un mini revers pour Donald Trump. Après, ça ne va pas changer la politique extérieure et ça ne va pas changer la relation des États-Unis.
Il est un peu plus sur sa planche en ce moment.
Voilà, il a d'autres sujets. Moi, ce que je trouve intéressant, surtout par rapport au cas roumain, et par rapport au profil pro-européen du candidat, c'est qu'en fait, si la Roumanie ainsi que la Bulgarie d'ailleurs sont rentrés dans l'Union européenne, sont membres de l'Union européenne depuis 2007, en fait, ils n'ont rejoint que l'espace Schengen au début de cette année 2025.
Ouais, c'est frais.
Et donc, c'est intéressant aussi parce que on ne lit pas dans les boules de cristal Europa Voice, mais que serait-il arrivé à cet accès à l'espace Schengen si un candidat anti-européen de droite nationale avait accédé au pouvoir? Donc, d'une certaine façon, c'est aussi un élément de réassurance pour von der Leyen et pour l'Union européenne, de savoir que la Roumanie, en l'occurrence, qui est membre de l'Union européenne depuis 2007, mais accédant seulement en ce début d'année 2025 à l'espace Schengen, est à sa tête quelqu'un avec qui elle va pouvoir, et les différents dirigeants européens vont pouvoir collaborer.
Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.